RFI.
Et voici aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
La saga Netflix continue grâce à une hausse surprise du nombre de ses abonnés en 2017. Ce service de vidéo en ligne a franchi cette semaine le seuil des 100 milliards de dollars de capitalisation boursière.
Et cela, sans doute, c'est grâce en partie à la reine d'Angleterre, dont la vie a inspiré la série The Crown, produite et diffusée par Netflix. C'est l'un des succès planétaires du moment, de quoi aimanter des millions de nouveaux abonnés. Avec 8 millions de plus au dernier trimestre de 2017, Netflix a bouclé nouvelle année record, dépassant largement la barre des 100 millions de clients. Ils sont exactement 117 millions à travers le monde. Le Nasdaq, la bourse des valeurs technologiques, a célébré cette performance en faisant bondir l'action, c'est ce qui lui a permis de franchir ce cap des 100 milliards de dollars de valorisation.
Et Netflix veut investir des milliards de dollars cette année dans de nouvelles productions et plus encore les années suivantes.
Oui, Netflix promet une suite au film Bright de Will Smith qui lui aussi a cartonné. De nouvelles séries, bien sûr, pour conserver le public conquis et en attirer d'autres. Et aussi une trentaine de productions dans d'autres langues que l'anglais. Quel chemin parcouru en 5 ans à peine. En 2013, les 100 millions de dollars dépensés pour la série House of Cards ont fait tousser les analystes financiers. Et cette année, les 8 milliards annoncés sont fêtés par la bourse. L'entreprise a même déboursé 39 millions sans provoquer le moindre remous des marchés pour retirer les épisodes inédits de House of Cards où apparaissait Kevin Spacey. L'acteur vedette de cette série a été balayé par la déferlante Weinstein.
Alors Netflix paraît en forme mais pourtant le studio californien a un niveau d'endettement préoccupant.
Oui, son passif a explosé. Le montant de sa dette ajouté aux droits payés en avance pour la diffusion des séries fabriquées par d'autres studios a quadruplé en 5 ans. Netflix suit en fait la même stratégie qu'Amazon, Uber ou Tesla pour rétablir sa position dominante et pour la consolider, eh bien, il brûle beaucoup de cash, il emprunte, c'est la fuite en avant. Il n'a pas vraiment d'autre choix parce que la concurrence commence à montrer les dents.
Oui, parce qu'il y a deux grands rivaux, Amazon et Hulu, sur le marché américain.
Hulu, un inconnu en Europe, a été racheté par Disney. Il va donc récupérer son fabuleux catalogue. Disney était jusqu'à maintenant un partenaire de Netflix, lui fournissant des films, des séries. Les contrats seront bien honorés, mais ils passent à la concurrence, de quoi être vigilant. Pour l'instant, le patron de Netflix n'est pas très inquiet. Son service aspire plus de la moitié du marché américain.
Et en Europe, Dominique, toujours pas de concurrence sérieux en vue ?
Pas mal d'acteurs de l'audiovisuel rêvent d'un Netflix européen. La patronne des chaînes publiques françaises, Delphine Ernotte, l'a évoqué. Vincent Bolloré, l'actuel patron de Canal, lui aussi a essayé de le réaliser en s'alliant avec Silvio Berlusconi et son puissant groupe de communication et de télévision. Mais il a suspendu tous ses projets. Netflix, cependant, reste sur ses gardes et il vient de recruter à son conseil d'administration l'ancien dirigeant de Canal, Rodolphe Belmer, celui-même qui a été remercié par le patron breton.
Aujourd'hui, l'économie en bref. L'accord de libre-échange transpacifique sera signé en mars prochain. On l'a appris hier à Tokyo.
Oui, un accord entre pays asiatiques, à l'exception de la Chine, et américains, à l'exception donc des États-Unis. C'est ce qu'a décidé Donald Trump. Le Canada pourrait s'y joindre, tandis que l'ALENA qu'il a signé avec les États-Unis et le Mexique est en train de sombrer. Un nouveau set de négociations est en cours à Montréal. Au moment donc où l'Amérique se replie, les grandes manœuvres s'accélèrent pour fluidifier un peu plus le commerce international.
Et puis en France, le rituel du chiffre du chômage publié chaque mois à 18h vit aujourd'hui sa dernière heure.
Dorénavant, les chiffres seront publiés tous les 3 mois, une statistique jugée plus pertinente par le gouvernement d'Édouard Philippe. Le chiffre mensuel, c'était surtout une épreuve très politique pour les gouvernants successifs, contraints d'expliquer une évolution du marché du travail pas toujours très significative.
Merci Dominique Bayard.